Chapitre 15. Journal du docteur Seward, suite. Ma colère n'aurait pas été plus grande si, alors qu'elle vivait encore, Van Helsing avait giflé Lucie. Je frappai du poing sur la table et me levai en demandant « Est-ce que vous devenez fou, professeur ?» Il releva la tête, me regarda, et la tendresse que je lus dans ses yeux me calma aussitôt. « Oh, que ne le suis-je fou ? » dit-il lentement. « La folie serait beaucoup plus facile à supporter qu'une vérité comme celle-ci. Oh, mon ami, pourquoi, à votre avis, ai-je attendu aussi longtemps avant de vous avouer une chose aussi simple ? Peut-être parce que je vous déteste encore comme je vous ai toujours détesté. Peut-être parce que je désirais vous faire souffrir, parce que je voulais, après tant d'années, me venger de ce geste par lequel vous m'aviez sauvé la vie ?»«
Ah, non, n'est-ce pas ?»«
Pardonnez-moi, dis-je.
Au contraire, mon ami, reprit-il, parce que cette vérité, je voulais vous la dire en vous faisant le moins de mal possible, car je savais que vous aviez aimé cette jeune fille.
Pourtant, maintenant encore, je n'espère pas que vous alliez me croire tout de suite. » Il est si difficile d'accepter immédiatement une vérité abstraite que, le plus souvent, nous commençons par en douter, surtout lorsque nous avons toujours cru exactement le contraire. Et il est plus difficile encore d'accepter une vérité concrète, surtout lorsqu'elle est aussi épouvantable que celle-ci. Ce soir, je vous prouverai qu'il faut y croire. Oserez-vous venir avec moi ? Cela me stupéfia. On ne saurait trouver de plaisir à prouver une telle vérité. Byron excepte de cette règle la jalousie et prouve la vérité même qu'il abhorrait le plus. Il vit que j'hésitais et poursuivit.
Le raisonnement est simple, et cette fois ce n'est pas le raisonnement d'un fou qui patauge dans un marécage en sautant d'une touffe d'herbe à une autre.
Si ce que je vous dis n'est pas vrai, alors la preuve que nous en aurons sera pour nous un soulagement, ou du moins, elle n'aggravera pas l'histoire de la fin de Lucie, si pénible déjà.
Mais si c'est vrai,
ah, c'est ce qu'il faut redouter. Et pourtant, cette crainte même aidera ma cause, car j'ai d'abord besoin qu'on y croie. Bon, voici ce que je vous propose. En premier lieu, nous allons tout de suite aller voir cet enfant au North Hospital, là où les journaux nous l'apprennent, on la conduit immédiatement. Le docteur Vincent, attaché à cet hôpital, est un de mes amis, et un des vôtres aussi, je pense, puisque vous avez fait vos études ensemble à Amsterdam. Même s'il lui était impossible de laisser voir son malade à ses amis, il le laissera voir au médecin. Nous ne lui dirons rien, sinon que nous désirons avoir des détails sur le cas en question. Ensuite, il prit une clé dans sa poche qu'il remua légèrement du bout des doigts. Ensuite, nous irons, vous et moi, passer la nuit dans le cimetière où Lucie repose. Voici la clé qui ferme le tombeau. Le fossoyeur me l'a donnée afin que je la remette à Arthur. À la pensée de la nouvelle terrible épreuve qui nous attendait, je sentis mes forces m'abandonner. Pourtant, je n'avais rien d'autre à faire que de me montrer aussi courageux que je le pouvais, et je déclarai que nous devions nous hâter, car la fin de l'après-midi approchait. L'enfant, quand nous entrâmes dans sa chambre, était éveillé. Il avait dormi et pris un peu de nourriture et son état général était satisfaisant. Le docteur Vincent ôta le bandage du cou pour nous montrer ses deux petites blessures. C'étaient exactement les mêmes que celles que portait Lucie. Elles étaient plus petites, paraissaient plus fraîches. C'était toute la différence. Nous demandâmes à Vincent d'où, à son avis, elles provenaient. Il nous répondit que l'enfant avait dû être mordu par un animal, peut-être un rat. Pour sa part, toutefois, il croyait plutôt qu'il s'agissait d'une de ces chauves-souris si nombreuses sur les hauteurs au nord de Londres. « Parmi toutes celles qui sont inoffensives, ajouta-t-il, il en est peut-être d'une espèce sauvage plus cruelle, venant des pays du Sud. Peut-être quelques marins en a-t-il ramené une chez lui et s'est-elle échappée, ou bien est-ce une jeune chauve-souris qui s'est envolée du jardin zoologique, et pourquoi, dans ce cas, ne serait-ce pas une chauve-souris de la race des vampires? Car on en élève aux zoos. Il n'y a pas 10 jours, c'est un loup qui s'est échappé, et on l'a aperçu, je crois, dans ses environs. » Aussi, durant une semaine, les enfants n'ont plus joué à rien d'autre qu'au petit chaperon rouge jusqu'au moment où cette dame en sang a fait son apparition. Alors ils n'ont plus pensé qu'à elle. Ce pauvre petit, encore, quand il s'est éveillé tout à l'heure, a demandé à l'infirmière s'il pouvait partir. et quand elle a voulu savoir pourquoi il désirait partir, il lui a dit « pour aller jouer avec la dame en sang ».
« J'espère, lui dit Van Helsing, que lorsque vous permettrez à l'enfant de rentrer chez ses parents, vous recommanderez à ceux-ci de le surveiller étroitement. Ces escapades dont il rêve sont très dangereuses, et la prochaine pourrait être fatale. Mais je suppose que vous avez l'intention de le garder encore quelques jours ici.
Pendant une semaine au moins. Davantage, si les blessures ne sont pas guéries au bout de 8 jours. Notre visite à l'hôpital ayant été plus longue que nous ne l'avions prévu, il faisait déjà nuit quand nous nous retrouvâmes dans la rue.
« Inutile de nous presser, » dit alors Van Helsing. « Je ne croyais pas qu'il fût si tard. Venez, il nous faut d'abord manger quelque chose, puis nous ferons ce qu'il nous reste à faire. »
Nous allâmes dîner au Jack Straw's Castle, où nous eûmes la compagnie d'un petit groupe de cyclistes et d'autres personnes fort joyeuses. Vers 10 heures, nous quittâmes l'auberge. La nuit était particulièrement obscure, et bientôt nous n'eûmes même plus la clarté des rares réverbères. De toute évidence, le professeur avait étudié le chemin que nous devions suivre, car il avançait sans la moindre hésitation. Pour moi, j'aurais été bien embarrassé s'il m'avait fallu dire où je me trouvais. Nous rencontrions de moins en moins de gens, si bien que finalement nous fûmes même étonnés de croiser des policiers à cheval qui patrouillaient. Parvenus enfin au mur du cimetière, nous l'escaladâmes. Non sans quelques difficultés, car nous ne connaissions pas l'endroit et il y faisait plus obscur encore que sur la route, nous trouvâmes le tombeau de la famille Westenra. Le professeur tira la clé de sa poche, ouvrit la porte grinçante, puis, très poliment mais sans doute inconsciemment, recula d'un pas pour me laisser passer le premier. Cette amabilité dans une circonstance aussi lugubre avait quelque chose d'ironique. Mon compagnon me suivit, referma la porte avec précaution, et après s'être assuré que la serrure n'était pas une serrure à ressort, car dans ce dernier cas notre situation eût été des plus mauvaises, il prit alors dans sa trousse une boîte d'allumettes et un morceau de bougie qui devait nous éclairer. Le tombeau, lorsque nous l'avions vu dans la journée garni de fleurs fraîches, donnait déjà le frisson, mais maintenant que quelques jours s'étaient écoulés depuis les funérailles, que toutes ces fleurs étaient fanées, les pétales blancs virant aux roues et les feuillages brunissants, que les araignées et autres petites bêtes régnaient à nouveau ici, que la pierre délavée par le temps apparaissait ainsi que le mortier recouverte de poussière et les fers rouillés, que les cuivres vernis et les plaques d'argent également ternies reflétaient faiblement la clarté de la bougie, le spectacle passait en sombre horreur tout ce que l'imagination eût pu concevoir. Même si on avait tenté de le repousser, malgré soi, on éprouvait le sentiment que la vie animale, n'était pas seule à disparaître à tout jamais. Van Helsing procéda avec méthode. Tenant la bougie en sorte qu'il pût lire les inscriptions sur chaque cercueil et en sorte que la cire, aussitôt qu'elle tombait sur les plaques d'argent, se figeait en taches blanches, chercha et trouva le cercueil de Lucie. Il se pencha à nouveau sur son sac et cette fois, y prit un tournevis.
« Qu'allez-vous faire ? » demandai-je.
« Ouvrez le cercueil, alors peut-être vous me croirez. »
Il se mit à dévisser le cercueil, puis l'enleva. L'enveloppe de plomb apparut. C'était plus que ce que je pouvais supporter. Cela me semblait être un affront à la morte, semblable à celui qu'on lui eût fait de son vivant si on l'avait déshabillé pendant qu'elle dormait. Pour l'arrêter, je saisis la main du professeur, mais il me dit simplement « Vous allez voir. » Et il prit dans son sac une petite scie, enfonçant le tournevis dans le plomb, d'un coup si vif que je reculai de surprise, il y fit un trou assez grand pour y introduire la pointe de la scie. Je pensais qu'allait se dégager l'odeur des gaz d'un cadavre déposé là depuis 8 jours et je reculai encore vers la porte, mais le professeur poursuivait sa tâche comme s'il ne se souciait de rien d'autre que du résultat final. Il scia le cercueil de plomb d'un côté, puis en travers, puis de l'autre côté, retirant alors la partie ainsi détachée et approchant la bougie de l'ouverture, il me fit signe d'approcher. J'avançai de quelques pas, je regardai. Le cercueil était vide. Le choc, pour moi, fut considérable. Mais Van Helsing, lui, demeura impassible. Plus que jamais, il savait qu'il avait raison.
« Vous me croyez à présent, mon cher John. Vous êtes convaincu ? »
Je sentis se réveiller en moi mon penchant naturel à la discussion. Je suis convaincu que le corps de Lucie n'est pas dans le cercueil, mais cela ne prouve qu'une chose.
Laquelle, mon cher John ?
Eh bien, que le corps n'est pas dans le cercueil.
Le raisonnement est juste, mais comment expliquez-vous ? Comment pouvez-vous expliquer qu'il ne soit pas là ?
Peut-être s'agit-il d'un voleur qui déterre les cadavres ? Ou peut-être le corps a-t-il été volé par les hommes de l'entrepreneur des pompes funèbres ? Mais je m'en rendais compte, je ne disais que des sottises, et pourtant c'était la seule explication que je trouvais. Le professeur soupira.
« Bon, fit-il, il nous faut donc une autre preuve. Venez avec moi. »
Il remit en place le couvercle du cercueil, rassembla ses outils, souffla la bougie et la laissa tomber dans le sac avec les outils. Nous ouvrîmes la porte et sortîmes. Il referma la porte à clé, puis il me tendit la clé.
« Vous voulez la prendre ? »
me demanda-t-il. « Peut-être alors ne douterez-vous plus ?» Je me mis à rire, d'un rire plus joyeux, je le reconnais, en lui faisant comprendre d'un geste qu'il pouvait la garder. « Une clé, dis-je, qu'est-ce que cela signifie ? Il en existe peut-être plusieurs exemplaires, et en tout cas, cette serrure ne doit pas être difficile à crocheter. » Sans répondre, il mit la clé en poche. Alors, il me dit de me cacher non loin de là derrière un nif afin d'observer ce qui se passait, tandis que lui-même irait surveiller l'autre partie du cimetière. Une fois derrière l'if, je vis s'éloigner sa silhouette sombre, puis les arbres et les monuments funéraires m'empêchèrent de la distinguer. Cette solitude m'impressionnait. J'entendis sonner minuit à un clocher lointain, puis une heure, puis deux heures. J'avais froid. J'en voulais à Van Helsing de m'avoir entraîné dans un tel lieu, et je m'en voulais encore plus d'avoir accepté d'y venir. Et si j'avais trop froid, et si j'avais trop sommeil pour observer très attentivement tout ce qui pouvait se passer autour de moi, je n'étais pas assez endormi pourtant pour ne pas remplir la tâche que le professeur m'avait confiée, de sorte que de toute façon, les moments que je passais furent des plus pénibles. Soudain, comme je me retournais, j'eus l'impression de voir, comme une traînée blanche qui se glissait entre deux ifs de l'autre côté du tombeau. En même temps, se précipitant vers elle, une masse sombre arriva de l'endroit où se trouvait le professeur. À mon tour, je voulus avancer, mais il me fallait contourner des tombes, et je trébuchai plus d'une fois. Le ciel était couvert, et un coq chanta au loin. À quelque distance, derrière les genévriers qui bordaient l'allée menant à l'église, apparut une silhouette blanche, à vrai dire presque indistincte, qui s'en venait vers le tombeau. Celui-ci, m'étant caché par des arbres, il me fut impossible de voir dans quelle direction la silhouette avait disparu, mais bientôt j'entendis que l'on marchait réellement à l'endroit même où était passée la silhouette blanche, et je vis, avançant vers moi, le professeur qui tenait dans ses bras un tout jeune enfant. Dès qu'il fut près de moi, il me le montra et me demanda « Eh bien, maintenant est-ce que vous me croyez ?»«
Non. Vous ne voyez donc pas cet enfant ?»«
Si, je vois cet enfant, mais qui donc l'a amené ici ?»
« Et est-il blessé ?»«
Nous le saurons bientôt, » me répondit le professeur. Et sans nous consulter, nous nous dirigeâmes l'un et l'autre vers la sortie du cimetière, Van Helsing portant l'enfant. Nous nous arrêtâmes sous un bouquet d'arbres, où à la flamme d'une allumette, nous examinâmes la gorge de l'enfant. On n'y voyait pas la moindre égratignure.
« Est-ce que je n'avais pas raison ?» demandai-je triomphant. « Nous sommes arrivés à temps, » s'écria Van Helsing, visiblement soulagé.
Qu'allions-nous faire de cet enfant ? Si nous le portions à un poste de police, il nous faudrait à tout le moins expliquer comment nous l'avions trouvé. Nous décidâmes plutôt de l'emmener dans la lande. Dès que nous entendrions approcher un agent de police, nous abandonnerions le bambin à un endroit où l'homme ne manquerait pas de le voir, et nous rebrousserions chemin sans perdre une minute. Tout se passa au mieux. À peine arrivés sur la lande, nous entendîmes le pas lourd d'un policier et après avoir étendu l'enfant dans le sentier, nous attendîmes, cachés, jusqu'à ce que, sa lanterne éclairant soudain le pauvre petit, l'agent de police poussa un cri d'étonnement. Rassuré alors sur le sort de celui que nous venions de sauver de justesse, nous nous éloignâmes en silence. Nous eûmes la chance de trouver presque aussitôt un fiacre et nous revînmes en ville. Incapable de m'endormir, j'ai relaté ces faits, mais je vais malgré tout essayer d'avoir quelques heures de sommeil car Van Helsing doit venir me prendre à midi. Il veut que je l'accompagne dans une autre expédition. 27 septembre. Il était 2 heures passées quand enfin nous avons pu risquer cette seconde tentative. L'enterrement prévu pour midi venait de se terminer et les retardataires avaient lentement franchi la grille du cimetière lorsque, de derrière le buisson qui nous servait de cachette, nous vîmes le fossoyeur qui refermait la grille à clé avant de partir à son tour. Nous savions que, à partir de ce moment, nous étions parfaitement libres d'agir comme nous l'entendions, et cela jusqu'au lendemain matin. Mais le professeur m'avertit qu'une heure tout au plus nous suffirait. Comme la veille, j'éprouvais le sentiment de l'horrible réalité des choses, où tout effort de l'imagination semble vain. Je savais parfaitement que, en accomplissant cette tâche sacrilège, nous encourions les sanctions de la loi, et en outre, j'étais persuadé de l'inutilité de tout cela. S'il avait été odieux d'ouvrir un cercueil de plomb pour voir si celle que l'on y avait mise près de 8 jours auparavant était réellement morte, c'était maintenant pure folie que de vouloir à nouveau entrer dans le tombeau, maintenant que nous savions, l'ayant vu de nos yeux, que le cercueil était vide. Cependant, je préférais ne rien dire de ce que je pensais, car lorsque Van Helsing s'était mis quelque chose en tête, rien ne pouvait l'en détourner. Il prit la clé, ouvrit la porte du caveau, et comme la veille, s'effaça poliment pour me laisser passer. L'endroit ne paraissait pas aussi affreusement lugubre que pendant la nuit, et pourtant, quel air misérable lui donnait le faible rayon de soleil qui y pénétrait par l'entrebâillement de la porte. Van Helsing s'approcha du cercueil de Lucie, et je fis de même. Se penchant de nouveau, il retira la partie du cercueil de plomb qu'il avait scié, alors qu'elle ne fut pas encore une fois ma surprise, mêlée d'horreur. Lucie était étendue là, telle exactement que nous l'avions vue la veille de son enterrement, et même, chose étrange, d'une beauté plus radieuse que jamais. Je ne pouvais pas croire qu'elle fût morte. Les lèvres étaient aussi rouges, non, plus rouges que de son vivant, et les joues délicatement colorées. « C'est un tour de passe-passe, » demandai-je. « À présent, vous êtes convaincu ?» me dit Van Helsing en guise de réponse, et tout en parlant, il tendit la main vers la morte. D'un geste qui me fit frémir, il releva les lèvres, découvrit les dents blanches. « Regardez, » reprit-il, « regardez, elles sont devenues plus pointues. C'est avec celles-ci. » Et il touchait les canines, qu'elle a mordu les enfants. « Vous ne pouvez plus en douter maintenant, n'est-ce pas, mon cher John ?» À nouveau, je voulus discuter, réfuter ce qui lui paraissait si simple et qu'il m'était absolument impossible d'accepter. « Peut-être est-on venu rapporter ici son corps depuis la nuit dernière ?»«
Ah oui ? Et qui donc, je vous prie ?»«
Qui ? Je n'en sais rien, mais quelqu'un est venu la replacer dans son cercueil. »
En outre, elle est morte depuis une semaine. La plupart des morts, après autant de jours, déjà auraient pris une autre apparence.
À ceci, je ne sus que répondre. Van Helsing, pourtant, ne parut pas remarquer mon silence. En tout cas, il ne manifesta ni dépit, ni satisfaction. Il regardait attentivement le visage de la morte, soulevait les paupières, examinait les yeux, et encore une fois, il entr'ouvrit les lèvres pour examiner les dents. Il se tourna alors vers moi et me dit... Il y a pourtant quelque chose de différent de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Nous nous trouvons en présence d'un dédoublement de la vie que l'on ne rencontre pas souvent. Cette jeune fille avait été mordue par le vampire alors qu'elle était en état d'hypnose, de somnambulisme. Oh, vous sursautez. Il est vrai que cela, vous l'ignoriez, mon cher John, mais je vous expliquerai plus tard. Et c'est lorsqu'elle était dans un état d'hypnose qu'il devait revenir lui sucer plus de sang encore. C'est toujours en transe qu'elle est morte, et en transe qu'elle est devenue une non-morte. C'est en cela qu'elle ne ressemble pas aux autres. D'habitude, lorsque les non-morts dorment chez eux, et il fit du bras un geste très large comme pour me rappeler que c'était dans les cimetières que les vampires étaient chez eux, leur visage révèle ce qu'ils sont, mais celui-ci, qui était si doux avant que Lucie fût une non-morte, retournera au néant. Notre fin à tous. Rien ici ne semble porter la marque du malin, et c'est pourquoi se m'est ainsi dur de voir de la tuer pendant qu'elle dort. Je sentis mon sang se figer, je m'aperçus que je commençais à accepter les théories de Van Helsing. Pourtant, si elle était réellement morte, devait-on frémir à l'idée de la tuer ? Et il leva les yeux sur moi. Sans aucun doute, j'avais changé de sentiment, car il me dit sur un ton presque joyeux « Ah, vous me croyez maintenant ?
N'allez pas si vite, lui répondis-je. Je veux bien accepter votre idée, je veux bien y réfléchir. Comment allez-vous faire ?
Je vais lui couper la tête et remplir sa bouche d'ail, puis je lui enfoncerai un pieu dans le corps.
Je frémissais de plus en plus à cette idée qu'on allait mutiler ainsi le corps de la femme que j'avais aimée. Toutefois, mon émotion n'était pas telle que je l'aurais cru. Je commençais à frissonner en réalisant la présence de cet être, de cette non-morte, comme l'appelait Van Helsing, et elle me devenait exécrable. L'amour serait-il soit tout subjectif, soit tout objectif? Un temps qui me semblait interminable se passa avant que Van Helsing ne se mît à l'œuvre. Il restait là, immobile, absorbé dans ses pensées. Finalement, il ferma son sac d'un geste sec et dit « J'ai réfléchi, il faut agir pour le mieux. Si je suivais mon inclination, je ferais immédiatement, oui, maintenant, à l'instant même, ce qui doit être fait. Mais il faut penser aux conséquences. Et de celles-ci peuvent découler mille fois plus de difficultés que nous ne l'imaginons. C'est évident. Lucie n'a encore tué personne, mais ce n'est sans doute qu'une question de temps. Si j'agissais maintenant, ce serait la mettre à jamais hors de danger, mais d'autre part, nous devrons sans doute avoir recours à Arthur. Et alors, comment lui expliquer tout ceci? Si vous, qui avez vu, et la blessure à la gorge de Lucie et celle, les mêmes, de cet enfant que l'on a transporté à l'hôpital, si vous, qui la nuit dernière avez vu le cercueil vide, mais qui aujourd'hui y voyez à nouveau celle qui, une semaine après sa mort, n'en est devenue que plus belle, plus fraîche, plus colorée de visage, si vous, qui avez constaté tout ceci de vos propres yeux, et avez également la nuit dernière aperçu la silhouette blanche qui a amené l'enfant jusque dans le cimetière et qui, malgré tout, pouvait à peine en croire vos yeux, comment alors espérer qu'Arthur, qui lui n'a absolument rien vu, pourrait y croire ? Méfiant, il s'est demandé pourquoi je l'ai empêché d'embrasser la jeune fille au moment de sa mort. S'il m'a pardonné, c'est parce qu'il croit que c'est à la suite d'un diagnostic erroné que je l'ai empêché de lui dire adieu. Et maintenant, il pourrait croire que, par erreur également, elle a été enterrée vive. Enfin, c'est nous, au comble de l'erreur, qui l'avons tuée. Et il soutiendra que c'est nous qui nous trompions, du tout au tout, et qu'il l'avons tuée à force de vouloir avoir raison. De sorte qu'il sera de plus en plus malheureux, cependant qu'il n'aura jamais de certitude absolue, ce qui est le pire de tout. Tantôt il pensera que celle qu'il aimait a été enterrée vive, et alors ses cauchemars seront d'autant plus atroces qu'il y verra les horreurs qu'elle a dû souffrir. Tantôt il se dira que nous avons peut-être raison, que sa bien-aimée était après tout une non-morte. Ah, je lui ai déjà dit, mais à présent, j'en suis certain. Il lui faudra traverser bien des amertumes avant d'atteindre le bonheur. Le pauvre garçon, hélas, vivra une heure où, pour lui, le ciel sera le plus noir. Mais ensuite, nous pourrons enfin agir en sorte que, jusqu'à la fin de ses jours, il connaisse la tranquillité d'esprit. Oui, maintenant, allons. Vous, retournez soigner vos malades. Moi, je reviendrai passer la nuit ici, dans ce cimetière, et demain soir, à 10 heures, vous viendrez me chercher au Berkeley Hotel. Je vais écrire un mot à Arthur pour lui demander d'y venir également, de même qu'à ce jeune Américain qui lui aussi a donné son sang. Tous nous aurons beaucoup à faire. Je vous accompagne jusqu'à Piccadilly, où nous mangerons un morceau, car je veux être de retour ici avant le coucher du soleil. Nous refermâmes donc à clé la porte du tombeau, puis nous nous dirigeâmes vers le mur du cimetière que nous eûmes tôt fait d'escalader, et nous reprîmes le chemin de Piccadilly. Note laissée par Van Helsing dans sa valise au Berkeley Hotel et adressée au docteur John Seward. 27 septembre. Mon cher John, j'écris ces lignes à votre intention au cas où il m'arriverait malheur sans que je vous aie revu. Je retourne au cimetière surveiller les abords du tombeau. Je voudrais que la non-morte, Miss Lucy, ne le quitte pas cette nuit afin que demain soir son envie d'en sortir n'en soit que plus grande. Aussi vais-je attacher à la porte du tombeau ce que la non-morte n'aime pas, de l'ail et un crucifix. Et cela suffira à garder la porte fermée, croyez-moi. Miss Lucy n'est qu'une jeune non-morte et elle se méfiera. D'ailleurs, l'ail et le crucifix l'empêcheront seulement de sortir, mais non pas d'avoir envie de sortir. Je resterai là toute la nuit depuis le coucher du soleil jusqu'après l'aurore, de sorte que, s'il y a quelque chose à apprendre, je l'apprendrai. En ce qui concerne Miss Lucy, soit pour elle-même, soit venant d'elle, je n'ai aucune crainte. Mais quant à cet autre qui l'a rendue non morte, celui-là a maintenant le pouvoir de chercher sa tombe et de s'y réfugier. Il est extrêmement rusé. J'en ai la preuve non seulement par le récit de Mr. Jonathan, mais par les diverses façons dont il nous a joué lorsqu'il y allait de la vie de Miss Lucy. Et c'est nous qui avons perdu la partie. De fait, le nom mort est toujours très fort. Dans sa seule main, il a la force de 20 hommes. C'est en vain que nous quatre, l'un après l'autre, avons donné notre sang à Miss Lucy. En outre, il a le pouvoir d'appeler son loup et je ne sais encore quelle autre créature. Bref, s'il vient au cimetière cette nuit, il m'y trouvera. Il se peut toutefois qu'il ne cherche pas à y venir. Son terrain de chasse est plus giboyeux que le cimetière où dort cette jeune non-morte et où veille le vieillard que je suis. N'importe, j'écris ces lignes pour que, si jamais, prenez tous les papiers que vous trouverez avec cette lettre, le journal de Harker et les autres, et lisez-les. Ensuite, essayez de trouver ce fameux non-mort. Coupez-lui la tête, brûlez-lui le cœur ou percez-le d'un pieu afin que le monde soit à tout jamais débarrassé de lui. Adieu donc, peut-être. Van Helsing.
Journal du Dr. Seward, 28 septembre. Une nuit de sommeil est un étonnant bienfait, à la vérité. Hier, j'acceptais presque les idées monstrueuses de Van Helsing. À présent, elles me paraissent un outrage au bon sens. Je ne doute pas que lui-même croie à tout ce qu'il raconte, mais je me demande s'il n'a pas le cerveau un peu détraqué. Pourtant, il doit y avoir quelque explication rationnelle à toutes ces choses apparemment si mystérieuses. Se pourrait-il que ce soit l'œuvre du professeur lui-même? Il est d'une intelligence à ce point extraordinaire que si jamais il perdait la tête, il accomplirait son dessein, quel qu'il fût, avec une obstination que rien ne pourrait fléchir. Cette pensée me déplaît, et vraiment, quelle chose surprenante si l'on découvrait que Van Helsing est fou. De toute façon, je l'ai observé attentivement, il faut que j'aie quelques lumières sur cet autre mystère. 29 septembre. Au matin. Hier soir, un peu avant 10 heures, Arthur et Quincy sont entrés dans la chambre de Van Helsing. Le professeur nous a dit ce qu'il attendait de chacun de nous, mais il s'est tout spécialement adressé à Arthur, comme si nos volontés, dans une certaine mesure, dépendaient de la sienne. Il commença par exprimer l'espoir que tous trois nous voudrions bien l'accompagner, car, précisa-t-il, nous avons à remplir là-bas un devoir aussi sacré que pénible.
Vous avez sans doute été très surpris en lisant ma lettre, demanda-t-il à Lord Godalming.
Oui, je l'avoue, répondit celui-ci. J'ai eu tant de causes de chagrin, tant de préoccupations ces derniers temps que je serais bien aise de pouvoir m'en passer maintenant. Quincy et moi avons beaucoup parlé de votre lettre. Nous nous demandions ce qu'elle signifiait exactement, mais plus nous en parlions, moins nous comprenions, si bien que, quant à moi, je puis dire que j'ai beau chercher, je ne vois pas.
Ni moi non plus, interrompit Quincy.
Oh, fit le professeur, alors vous comprendrez plus vite que mon ami John ici présent qu'il doit faire un long chemin en arrière avant de pouvoir même commencer à comprendre. De toute évidence, sans pourtant que j'en eusse dit un mot, il avait deviné que je doutais à nouveau. Puis, se tournant encore vers les deux autres, il leur expliqua avec gravité. Je voudrais que vous me donniez la permission de faire cette nuit ce que je juge bon de faire. C'est, je le sais, vous demandez beaucoup, et lorsque vous saurez quelle est mon intention, seulement alors vous mesurerez mon exigence. Puis-je donc vous demander de me donner cette autorisation en restant dans l'ignorance de ce que je vais faire, afin que, ensuite, si même vous m'en vouliez, chose qui me paraît très possible, vous n'ayez rien à vous reprocher?
Voilà qui a parlé franchement, déclara Quincy. Je me fie au professeur, je ne vois pas encore où il veut en venir, mais je sais que, en tout cas, son intention est honnête, et cela me suffit.
Je vous remercie, monsieur, dit Van Helsing. J'ai moi-même l'honneur de vous apprécier comme un ami sur qui l'on peut compter, et je ne suis pas prêt de l'oublier. Et il tendit la main à Quincy.
Docteur Van Helsing, dit Arthur à son tour,
Je ne voudrais pas acheter chat en poche, comme on dit, et s'il s'agit d'une chose où mon honneur de gentleman ou ma foi de chrétien puisse être compromis, il m'est impossible de faire la promesse que vous me demandez. Mais si vous m'assurez, au contraire, que ce que vous avez l'intention de faire ne met en danger ni l'un ni l'autre, je vous donne à l'instant entière liberté d'agir, encore que, sur ma vie, je ne comprenne rien à tout ceci. « J'accepte vos conditions, » répliqua Van Helsing, « et tout ce que je vous demande, c'est que, avant de blâmer l'un ou l'autre de mes actes, vous réfléchissiez longuement à étudier s'il tient compte de ces conditions. »
« Entendu, » promit Arthur.
« Et maintenant, puis-je vous demander ce que nous devons faire ?»«
Je voudrais que, dans le plus grand secret, vous veniez avec moi au cimetière de Kingstead. »
Le visage d'Arthur s'allongea, et le jeune homme demanda encore étonné,
« Au cimetière où la pauvre Lucie est enterrée ?»
Le professeur fit signe que oui.
« Et alors ?» reprit Arthur.
« Alors ? Nous entrerons dans le tombeau. »
L'autre se leva.
« Docteur Van Helsing, parlez-vous sérieusement, ou n'est-ce pas plutôt quelque plaisanterie déplacée ?»«
Pardonnez-moi, je vois que vous parlez sérieusement. »
Il se rassit, mais il restait visiblement sur son quant à soi. Il y eut un silence, puis Arthur interrogea à nouveau.
« Et quand nous serons dans le tombeau ?»«
Nous ouvrirons le cercueil. »«
C'en est trop !» s'écria Arthur en se levant, et cette fois avec colère. « Je veux bien être patient tant que nous demeurons dans le domaine du raisonnable, mais ceci, cette profanation de la tombe, d'un être qui... »
L'indignation l'empêcha de poursuivre. Le professeur le regarda avec pitié.
« Si je pouvais vous épargner une seule émotion, mon pauvre ami, Dieu sait que je le ferais, » dit-il. « Mais cette nuit, il nous faudra marcher dans un sentier semé d'épines où, bien plus tard et à jamais, ce sera celle que vous aimez qui devra suivre des chemins de feu. »
Le visage blême, Arthur leva les yeux vers lui.
« Prenez garde, monsieur.
Prenez garde.
Peut-être serait-il mieux pour vous que vous entendiez ce que j'ai à dire. » fit Van Helsing.
« Après tout, alors vous connaîtriez exactement mon intention. Vous voulez la connaître ?»«
Ce serait juste, » intervint Maurice. Van Helsing resta silencieux un moment, puis reprit, en ne parvenant pas toutefois à cacher combien cela lui était pénible.
« Miss Lucie est morte, n'est-ce pas ?»«
Bien sûr, nous le savons. Dans ce cas, rien ne peut lui nuire. Pourtant,
si elle n'est pas morte. »
Arthur d'un bond se leva. « Grand Dieu ! » s'écria-t-il. « Que voulez-vous donc dire ? S'est-on trompé ? L'a-t-on enterrée vive ? » ?»«
Je n'ai pas dit qu'elle vivait, mon garçon, et je ne le pense pas. J'ai simplement dit qu'il se pourrait qu'elle fût une non-morte. »«
Non-morte et non-vivante, cependant. Mais qu'est-ce que tout cela signifie ? Est-ce un cauchemar ou quoi ?
Il y a des mystères que l'esprit ne fait qu'entrevoir et que les siècles, l'un après l'autre, ne peuvent éclaircir qu'en partie. Croyez-moi, nous sommes en présence d'un de ces mystères et nous allons peut-être en trouver la clé. Mais je continue, si vous le permettez. Puis-je couper la tête à feu, Miss Lucie ?
Mais par le ciel et la terre, non ! S'écria Arthur avec colère. Je ne consentirai jamais à ce qu'on mutile son cadavre, docteur Van Helsing. Vous me soumettez à une épreuve qui dépasse les bornes. Que vous ai-je donc fait pour que vous me torturiez de la sorte ? Et qu'a fait cette pauvre et douce enfant pour que vous vouliez déshonorer ainsi sa tombe ? Est-ce vous qui êtes fou pour proférer des paroles semblables ou est-ce moi qui suis fou de les écouter ?
Dès maintenant, ne pensez plus pouvoir profaner cette tombe. Je n'y consentirai pas. J'ai le devoir de la protéger et Dieu m'est témoin que je remplirai ce devoir. Van Helsing quitta le fauteuil où il était resté assis pendant tout ce temps et répondit très sérieusement
« Moi aussi, Lord Godalming, j'ai un devoir à remplir, un devoir envers d'autres, un devoir envers vous-même, un devoir envers la morte. Tout ce que je vous demande pour le moment, c'est de m'accompagner là-bas afin que vous puissiez voir et écouter. Et si plus tard je vous adresse encore la même requête et que vous ne soyez pas impatient d'y répondre, alors je ferai mon devoir, quel qu'il m'apparaisse. Ensuite, afin d'accéder aux vœux de votre seigneurie, je me tiendrai à votre disposition pour vous expliquer ce dont je me serai rendu compte. »
Sa voix faiblit un moment, puis il reprit à nouveau et, comme pitoyable à lui-même,
« Mais je vous en supplie, ne soyez plus en colère contre moi.
Tout au long de mon existence, j'ai souvent eu à faire des choses qui ne m'étaient pas agréables, qui même parfois me déchiraient le cœur. Jamais je n'ai eu à remplir un devoir aussi pénible que celui qui m'attend. Croyez-moi, si un jour vient où vos sentiments changent à mon égard, un seul regard de vous aura tôt fait de dissiper jusqu'au souvenir de cette heure si triste, car je ferai tout ce qu'il est humainement possible de faire pour vous épargner trop de chagrin. Car pensez-y, pourquoi me donnerais-je tant de peine? Pourquoi me ferais-je tant de soucis? Je suis venu de Hollande pour soigner de mon mieux une malade. D'abord, je voulais répondre à l'appel de mon ami John. Ensuite, j'ai voulu tout mettre en œuvre pour guérir une jeune fille qui, peu à peu, à moi aussi, m'a inspiré une véritable amitié. Je lui ai donné, et j'ai quelque honte à le rappeler encore que je le rappelle avec émotion et presque avec tendresse, mon propre sang, comme vous-même lui avez donné le vôtre. Oui, je lui ai donné mon sang, moi, qui n'était pas, comme vous, son fiancé, mais seulement son médecin et son ami. Je lui ai consacré des journées entières, des nuits entières, non seulement avant sa mort, mais aussi après sa mort. Et si ma propre mort pouvait adoucir un peu son sort, maintenant qu'elle est cette morte non morte, je mourrais très volontiers. Il y avait dans la manière dont il parlait une douce et grave fierté. Et je compris qu'Arthur en était profondément ému. Il prit la main de Van Helsing et dit d'une voix brisée « Oh, comme tout cela est pénible, triste et difficile à comprendre. Pourtant, je vais vous accompagner au cimetière. Nous verrons. »